Maurice Leblanc, Victor de la Brigade Mondaine, avant-propos. Victor de la Brigade Mondaine naquit le vol des bons de la Défense Nationale, le double assassinat du père Lescot et d'Élise Masson, et sa lutte opiniâtre contre Arsène Lupin ont valu une telle renommée, était avant cette époque un vieux policier, habile, retors, hargneux, insupportable, qui faisait son métier en amateur quand ça lui chantait, et dont la presse avait eu maintes fois l'occasion de signaler les procédés singuliers et la manière un peu trop fantaisiste. Le préfet, s'étant ému de certaines déclamations, voici la note confidentielle qui lui fut communiquée par M. Gauthier, directeur de la police judiciaire, lequel ne manquait jamais de soutenir son subordonné. L'inspecteur Victor, de son vrai nom Victor Autin, est le fils d'un procureur de la République mort à Toulouse il y a 40 ans. Victor Autin a passé une partie de sa vie dans les colonies. Excellent fonctionnaire, chargé des missions les plus délicates et les plus périlleuses, il fut souvent déplacé à la suite de plaintes portées contre lui par des maris dont il séduisait les femmes ou des pères dont il enlevait les filles. Ces scandales l'empêchèrent de prétendre aux postes élevés dans l'administration. Plus calme avec les années, ayant hérité une jolie fortune, mais désireux d'occuper ses loisirs, il se fit recommander à moi par un de mes cousins résidant à Madagascar, qui tenait Victor Autin en grande estime. De fait, malgré son âge, malgré son indépendance excessive et son caractère ombrageux, c'est un auxiliaire précieux, discret, sans ambition, peu soucieux de réclames, et dont j'apprécie vivement les services. À parler franc, lorsque fut rédigée cette note, la renommée de Victor n'excédait pas le cercle restreint de ses chefs et de ses collègues. Il fallut, pour le mettre en évidence, qu'apparut brusquement en face de lui cet extraordinaire, ce formidable personnage d'Arsène Lupin, qui allait donner à la ténébreuse affaire des bons de la Défense sa signification et son intérêt spécial. On dirait que les qualités déjà remarquables du vieil inspecteur furent soudain portées à leur maximum par le prodigieux adversaire que lui opposaient les circonstances. C'est la lutte sournoise, ardente, implacable, haineuse qu'il poursuivit dans l'ombre d'abord, puis en pleine clarté, et c'est le coup de théâtre inattendu à quoi cette affaire aboutit, qui, tout en ajoutant encore au prestige de Lupin, rendirent célèbre dans le monde entier le nom de Victor de la Brigade Mondaine. Chapitre 1. Il court, le furet. Ce fut bien par hasard que Victor de la Brigade Mondaine entra cet après-midi de dimanche au ciné Balthazar. Une filature manquée l'avait fait échouer vers 4 heures sur le populeux boulevard de Clichy. Pour échapper à l'encombrement d'une fête foraine, il s'était assis à la terrasse d'un café et, parcourant des yeux un journal du soir, il avait lu cet entrefilet. On affirmait, ces jours-ci, que le fameux cambrioleur Arsène Lupin, qui, après quelques années de silence, fait beaucoup parler de lui actuellement, aurait été vu mercredi dernier dans une ville de l'Est. Des inspecteurs ont été envoyés de Paris. Une fois de plus, il aurait échappé à l'étreinte de la police. « Salaud !» avait murmuré Victor, en policier rigide qui considère les malfaiteurs comme autant d'ennemis personnels et s'exprime à leur égard en termes dépourvus d'aménité. C'est alors que, dans ses mauvaises humeurs, il s'était réfugié au cinéma où se donnait en seconde matinée un film très couru d'aventure policière. On le plaça au fauteuil de balcon, sur le côté. L'entracte tirait à sa fin. Victor maugréait, furieux maintenant de sa décision. Que venait-il faire là? Il allait repartir et se levait déjà, lorsqu'il aperçut, seul dans une loge de face, donc à quelques mètres de lui, une femme très belle, au visage pâle et aux bandes rouges d'un reflet fauve. Elle était de ces admirables créatures vers qui tous les regards sont attirés, bien que celle-ci ne cherchât à capter l'attention ni par sa façon de se tenir, ni par le moindre geste de parade. Victor resta. Avant que la nuit brusque ne tombât dans la salle, il eut le temps d'enregistrer le reflet fauve des bandeaux et l'éclat métallique de deux yeux clairs et, sans se soucier que le film l'ennuyât avec ses péripéties extravagantes, il patienta jusqu'au bout. Non pas qu'il fût encore à l'âge où l'on se croit capable de plaire, non, il connaissait fort bien son âpre figure, son air peu aimable, sa peau rugueuse, ses tempes grisonnantes, bref, cet ensemble revêche d'ancien adjudant de cavalerie qui aurait dépassé la cinquantaine et qui chercherait à faire de l'élégance avec des vêtements trop ajustés à sa taille et sentant la confection. Mais la beauté féminine était un spectacle dont il ne se lassait pas et qui lui rappelait les meilleures émotions de sa vie. En outre, il aimait son métier et certaines visions lui imposaient le désir de discerner ce qu'elle cachait de mystérieux, de tragique ou même parfois d'infiniment simple. Quand la lumière jaillit de nouveau et que la dame fut debout, en pleine clarté, il constata qu'elle était de haute taille, d'une grande distinction, et fort bien habillée, considération qui ne firent que le stimuler. Il voulait voir et il voulait savoir. Donc, il la suivrait, autant que par curiosité que par intérêt professionnel. Mais au moment où il commençait à se rapprocher, il se produisit au-dessous du balcon, parmi la masse des spectateurs qui s'écoulaient, un tumulte soudain. Des cris s'élevaient et une voix d'homme hurla « Au voleur, arrêtez-la, elle m'a volé !» La dame élégante se pencha sur l'orchestre. Victor se pencha aussi. En bas, dans le passage central, un jeune homme, petit et gros, gesticulait, la figure contractée, et se démenait furieusement pour fendre les rangs pressés qui l'entouraient. La personne qu'il essayait d'atteindre et de désigner de son doigt tendu devait être assez loin, car ni Victor ni aucun des spectateurs ne remarquèrent qu'une femme courut et tâcha de se sauver. Cependant, il vociférait, haletant de rester sur la pointe des pieds, avançant à coups de coude et d'épaule. « Là-bas, là-bas, elle franchit les portes. Des cheveux noirs, un vêtement noir, une toque. » Il suffoquait, incapable de donner un renseignement qui permît d'identifier la femme. À la fin, il bouscula les gens avec une telle violence qu'il réussit à se frayer un chemin et à bondir dans le hall d'entrée jusqu'au baies des grandes portes ouvertes. C'est là que Victor, qui n'avait pas attendu plus longtemps pour descendre l'étage du balcon, le rejoignit et l'entendit qui proférait « Au voleur, arrêtez-la !» Dehors crépitaient tous les orchestres de la fête foraine, et l'ombre du soir naissant s'illuminait d'une clarté toute vibrante de poussière. Affolé et ayant sans doute perdu de vue la fugitive, le jeune homme, deux ou trois secondes immobile sur le trottoir, la cherchait des yeux, à droite, à gauche, en face. Puis brusquement, il dut l'apercevoir et courut vers la place Clichy, se glissant au milieu des autos et des tramways. Il ne criait plus maintenant et filait très vite en sautant parfois, comme s'il espérait surprendre de nouveau, parmi les centaines de promeneurs, celle qu'il avait volée. Cependant, il avait l'impression que, depuis le cinéma, quelqu'un courait également presque à ses côtés, et cela devait l'encourager, car il redoublait de vitesse. Une voix lui dit « Vous la voyez toujours? Comment diable pouvez-vous la voir ?» Essoufflé, il murmura « Non, je ne la vois plus, mais elle a sûrement pris cette rue-là. » Il s'engageait dans une rue bien moins fréquentée, où il eût été impossible de ne pas discerner une femme qui eût marché à une allure plus rapide que les autres promeneuses. Un carrefour, il ordonna « Prenez la rue droite, moi celle-ci, on se retrouvera au bout. Une petite brune, habillée de noir. » Mais il n'avait pas fait 20 pas dans la rue choisie par lui qu'il s'appuya contre le mur hors d'haleine, chancelant, et se rendit compte seulement alors que son compagnon ne lui avait pas obéi et qui le soutenait cordialement dans sa défaillance. « Comment, comment ?» dit-il avec colère. « Vous voilà encore, mais je vous avais pourtant recommandé. »« Oui, » répondit l'autre, « mais depuis la place Clichy, vous avez vraiment l'air d'aller au hasard. Il faut réfléchir. J'ai l'habitude de ces histoires-là. On va quelquefois plus vite sans bouger. » Le jeune homme observa cet obligeant personnage qui, chose étrange, malgré son apparence âgée, ne semblait même pas essoufflé par sa course. « Ah, » dit-il d'un air maussade, « vous avez l'habitude. »« Oui, je suis de la police, inspecteur Victor. »« Vous êtes de la police, » répéta le jeune homme, distraitement, les yeux fixes. « Oh, je n'ai jamais vu des types de la police. » Était-ce un spectacle agréable pour lui ou désagréable ? Il tendit la main à Victor et le remercia. « Au revoir, vous avez été très aimable. » Il s'éloignait déjà. Victor le retint. « Mais cette femme, cette voleuse, aucune importance, je la retrouverai. Ben, je pourrais vous être utile, donnez-moi donc quelques renseignements. » « Des renseignements, mais sur quoi ? Me suis trompé. » Il se mit à marcher plus vite. L'inspecteur l'escortait du même pas rapide, et à mesure que l'autre semblait plus désireux de rompre l'entretien, il s'accrochait davantage à lui. Il ne parlait même plus. Le jeune homme paraissait pressé d'atteindre un but qui n'était cependant pas la capture de la voleuse, puisqu'il allait visiblement à l'aventure. « Entrons ici, » dit l'inspecteur, qui le dirigeait par le bras au rez-de-chaussée, marqué d'une lanterne rouge avec ces mots « Poste de police ».« Ici, mais pourquoi faire ? Ah, nous avons à causer, et en pleine rue, oh, n'est pas commode. Vous êtes fou, fichez-moi donc la paix, » protestait l'inconnu. « Non, je ne suis pas fou, et je ne vous ficherai pas la paix, » riposta Victor. D'autant plus acharné qu'il enrageait d'avoir abandonné ses manœuvres autour de la jolie dame du cinéma. L'inconnu résista, lança un coup de poing, en reçut deux, et finalement, vaincu, dompté, fut poussé dans une salle où se trouvaient réunis une vingtaine d'agents en uniforme. « Victor, de la brigade mondaine, » annonça l'inspecteur en entrant. « J'ai quelques mots à dire à monsieur. Ça vous dérange pas, brigadier ?» À l'annonce de ce nom de Victor, célèbre dans les milieux de police, il y eut un mouvement de curiosité. Le brigadier se mit aussitôt à sa disposition, et Victor lui expliqua brièvement l'affaire. Le jeune homme, lui, était effondré sur un banc. « Fourbu, hein ?» s'écria Victor. « Mais aussi pourquoi couriez-vous comme un dératé ? Votre voleuse, vous l'aviez perdue de vue tout de suite, alors quoi ? C'est donc que vous vouliez vous sauver ?» L'autre se rebiffa. « Mais enfin, qu'est-ce que ça vous regarde ? J'ai bien le droit de courir après quelqu'un, que diable ! Vous n'avez pas le droit de faire du scandale dans un lieu public, pas plus qu'on a le droit, en chemin de fer, de tirer le signal d'alarme pour une raison sérieuse. » Sans une raison sérieuse. Mais je n'ai fait de mal à personne. Si, à moi. J'ai été sur une piste fort intéressante. Et puis, flûte, vos papiers. Je n'en ai pas. Oh, ce ne fut pas long. Avec une prestesse plutôt brutale, Victor fouilla le veston du captif, s'empara de son portefeuille, l'examina et murmura. « C'est votre nom, Alphonse Audigrand ?»« Alphonse Audigrand, vous connaissez ça, brigadier ?» Celui-ci conseilla. « On peut téléphoner. » Victor décrocha l'appareil, demanda la préfecture, attendit, puis reprit. « Allô, la police judiciaire, s'il vous plaît. Allô, c'est vous le Fébure ? Ici Victor, de la Mondaine. Dites donc, le Fébure. J'ai sous la main un sieur Audigrand, qui ne me semble pas très catholique. Est-ce un nom qui vous dit quelque chose ? Hein ? Quoi ? Mais oui, Alphonse Audigrand. Allô, allô. Un télégramme de Strasbourg. Lisez-moi ça. Parfait, parfait. Oui, un petit gros avec des moustaches tombantes. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'il y a de service dans le bureau ? Edouin, oh, l'inspecteur principal. Bon, mettez-le au courant et qu'il vienne chercher notre homme au poste de la rue des Ursins. Merci. Ayant raccroché, il se tourna vers Audigrand et lui dit « Vilaine affaire! Employé à la Banque centrale de l'Est, tu as disparu depuis jeudi dernier, jour du vol des 9 bons de la Défense nationale. Un joli coup de 900 000 francs, et c'est évidemment ce magot-là qu'on t'a barboté tout à l'heure au cinéma. Qui, mais qu'est-ce que c'est que ta voleuse ?» Audigrand pleurait sans force pour se défendre, et il avoua stupidement. Je l'ai rencontré avant-hier dans le métro. Hier, on a déjeuné et dîné ensemble. Deux fois, elle a remarqué que je cachais une enveloppe jaune dans ma poche. Et aujourd'hui, au cinéma, elle était tout le temps penchée sur moi, à m'embrasser. Et l'enveloppe contenait les bons, oui. Le nom de la femme ? Ernestine. Ernestine quoi ? Ben, je sais pas. Elle a de la famille ? Je sais pas. Elle travaille ? Dactylographe. Où ? Ben, dans un dépôt de produits chimiques. Situé, je sais pas. On se rejoignait aux environs de la Madeleine. Il sanglotait à tel point qu'il devenait impossible de le comprendre. Victor, qui n'avait pas besoin d'en savoir davantage, se leva, s'entendit avec le brigadier pour qu'aucune précaution ne fût négligée, et rentra dîner. Pour lui, le sieur Audigrand ne comptait plus. Il regrettait même de s'en être occupé d'avoir perdu contact avec la dame du cinéma. La belle créature est si mystérieuse. Pourquoi diantre cet imbécile d'Audigrand s'était-il interposé stupidement entre elle et Victor, qui prisait tellement les jolies inconnues et se passionnait à déchiffrer le secret de leur existence ? Victor habitait dans le quartier des Ternes, un petit logement confortable où le servait un vieux domestique. Ayant une certaine fortune, de caractère très indépendant, voyageur passionné, il en prenait fort à son aise avec la préfecture, où on le tenait en haute estime, mais où on le considérait comme un original et plutôt comme un collaborateur occasionnel que comme un employé soumis aux règles ordinaires. Si telle affaire l'ennuyait, rien au monde, ni ordre ni menace, ne lui contraint à la poursuivre. Si tel autre lui disait quelque chose, il s'en emparait, la poussait à fond, et en apportait la solution au directeur de la police judiciaire dont il était le protégé. Et l'on n'entendait plus parler de lui. Le lendemain lundi, il lut dans son journal le récit de l'arrestation raconté par l'inspecteur principal Edouin avec un luxe de détails qui l'horripila, car il estimait qu'une bonne police doit être faite discrètement et il eut certainement passé à d'autres exercices si ce même journal, évoquant le passage d'Arsène Lupin dans une ville de l'Est, ne lui avait appris que cette ville n'était autre que Strasbourg. Or, les bons avaient été volés à Strasbourg. Simple coïncidence, évidemment, puisqu'il ne pouvait y avoir aucun rapprochement entre cet imbécile d'Audigrand et Arsène Lupin, mais tout de même... Aussitôt, il explora les annuaires, fit l'après-midi une enquête sur les maisons de produits chimiques et fouilla le quartier de la Madeleine. Ce n'est qu'à 5 heures qu'il découvrit qu'il y avait une nommée Ernestine, dactylographe au comptoir commercial de chimie, rue du Mont-Tabor. Il téléphona au directeur et les réponses qui lui furent faites l'incitèrent à une visite immédiate au comptoir. Il s'y rendit en hâte. Les bureaux se composaient de petites pièces où la place manquait et que séparaient les unes des autres de légères cloisons. Introduit dans le cabinet du directeur, il s'y heurta dès l'abord à de vives protestations. « Ernestine Paye a une voleuse, mais ce serait-elle l'aventurière dont j'ai lu la fuite dans les journaux de ce matin ? Impossible, monsieur l'inspecteur. Les parents d'Ernestine sont très honorables, elle vit chez eux. » « Pourrais-je lui poser quelques questions ? Oh, si vous y tenez. » Il sonna le garçon de bureau. « Appelez donc mademoiselle Ernestine. » Une menue personne se présenta, discrète d'allure, assez gentille, avec le visage crispé de quelqu'un qui, en prévision des pires événements, s'est composé une attitude inflexible. Cette pauvre façade s'écoula du premier coup lorsque Victor lui demandait de son air rébarbatif ce qu'elle avait fait de l'enveloppe jaune dérobée la veille à son compagnon de cinéma. Sans plus de résistance que le sieur Audigrand, elle défaillit, s'écoula sur une chaise, pleura, bégaya. « Il a menti. J'ai vu une enveloppe jaune par terre, je l'ai ramassée. » Et c'est ce matin, par le journal, que j'ai su qu'il m'accusait. Victor tendit la main. « L'enveloppe, vous l'avez sur vous ?»« Non, je ne savais où retrouver ce monsieur. Elle est là, dans mon bureau, près de la machine à écrire. »« Allons-y, » dit Victor. Elle le précéda. Elle occupait un recoin entouré d'un grillage et d'un paravent. Elle souleva, sur le bout de la table, un paquet de lettres et sembla surprise. D'un geste fiévreux, elle éparpilla les papiers. « Rien, » fit-elle, stupéfaite, « il n'y est plus. »« Que personne ne bouge, » ordonna Victor à la douzaine d'employés qui s'empressaient autour d'eux. « Monsieur le directeur, quand je vous ai téléphoné, vous étiez seul dans votre bureau ?» « Moi, je crois, ou plutôt non, je me souviens que la comptable se trouvait avec moi, Madame Chassin. »« En ce cas, certains mots ont pu la renseigner, » précisa Victor. « Deux fois, durant notre communication, vous m'avez désigné comme inspecteur et vous avez prononcé le nom de Mademoiselle Ernestine. Or, Madame Chassin... » savait, comme tout le monde par les journaux, que l'on suspectait une demoiselle Ernestine. Madame Chassin est ici ? Un des employés répondit. Oh, Madame Chassin s'en va toujours à 6h20 pour prendre le train de 6h. Elle habite Saint-Cloud. Était-elle partie quand j'ai fait appeler le dactylographe à la direction il y a 10 minutes ? Oh non, pas encore. « Vous l'avez vue partir, mademoiselle ?» demanda Victor à la dactylographe. « Oui, » répliqua mademoiselle Ernestine, « elle remettait son chapeau. Nous causions à ce moment-là, elle et moi. Et c'est à ce moment que, même que appelé à la direction, vous avez jeté l'enveloppe jaune sous ses papiers. »« Oui, jusqu'alors je la gardais dans mon corsage. »« Et madame Chassin a pu voir votre geste ?» Je le suppose. Victor, ayant consulté sa montre, recueillit quelques détails sur la dame Chassin, une dame de 40 ans, rousse, épaisse, cuirassée dans un sweater vert pomme, puis il quitta le comptoir. En bas, il croisa l'inspecteur principal Edouin, qui avait recueilli la veille Alphonse Audigrand, et qui s'écria, confondu, « Comment vous voilà déjà, Victor ?» Vous avez vu la maîtresse d'Audigan, la demoiselle Ernestine ? Oui, oui, tout va bien. Sans plus s'attarder, il prit un taxi et arriva juste pour le train de 6 heures. Du premier coup d'œil, il constata que dans la longue voiture où il prenait place, aucune dame ne portait de sweater vert pomme. Le train partit. Tous les voyageurs qui l'environnaient lisaient les journaux du soir. Près de lui, deux d'entre eux causèrent de l'enveloppe jaune et de l'affaire des bons, et il se rendit compte encore à quel point les moindres détails en étaient déjà connus. En 15 minutes, on arrivait à Saint-Cloud. Tout de suite, Victor s'entretint avec le chef de gare et la sortie des voyageurs fut surveillée. Ils étaient nombreux à ce train-là. Lorsqu'une dame rousse, dont le sweater vert pomme apparaissait entre les pans d'un manteau gris, voulut passer, son carnet d'abonnement à la main, Victor lui dit tout bas « Veuillez me suivre, madame, police judiciaire. » La dame eut un sursaut, murmura quelques paroles et accompagna l'inspecteur et le chef de gare qui la fit entrer dans son bureau. « Vous êtes employé au comptoir commercial de chimie, lui dit Victor, et vous avez emporté par mégarde une enveloppe jaune que la dactylographe Ernestine avait laissée près de sa machine à écrire. « Moi, dit-elle assez calmement, il y a erreur, monsieur. Ben, nous allons être contraints de me fouiller, pourquoi pas. Je suis à votre disposition. » Elle montrait une telle assurance qu'il hésita, mais d'autre part, innocente, ne se fût-elle pas défendue? On la pria de passer dans une pièce voisine avec une employée de la gare. L'enveloppe jaune ne fut pas trouvée sur elle et aucun bon de la défense. Victor ne se démonta pas. « Donnez-moi votre adresse, lui dit-il sévèrement. » Un autre train arrivait de Paris. L'inspecteur principal Édouard en descendit rapidement et se heurta aussitôt à Victor, lequel débita tranquillement. « La dame Chassin a eu le temps de mettre l'enveloppe en sûreté. Si on n'avait pas bavardé hier soir à la préfecture devant les journalistes, le public n'aurait pas connu l'existence de cette enveloppe jaune. Contenant une fortune, la dame Chassin n'aurait pas eu l'idée de la chaparder. » Et je l'aurais cueilli, moi, dans le corsage d'Ernestine. Voilà ce que c'est que de faire de la police sur la place publique. » Édouard se rebiffa, mais Victor acheva. « Je résume. Audigrand, Ernestine, Chassin, en 24 heures, trois amateurs successifs du magot éliminé. Passons au quatrième. » Un train s'en allait à Paris. Il y prit place, laissant sur le quai et Forte et Bobby, son supérieur, l'inspecteur principal Edouin. Dès le mardi matin, Victor, toujours bien sanglé dans son veston, qui avait plutôt l'air d'un ancien dolman, commença en auto, où il possédait un modeste cabriolet à 4 places, une enquête minutieuse à Saint-Cloud. Il s'appuyait sur ce raisonnement. La dame Chassin, détentrice de l'enveloppe jaune, la veille lundi de 6h-20 à 6h15, n'a pas pu déposer un objet de cette importance au premier endroit venu. Logiquement, elle a dû le remettre à quelqu'un. Et où a-t-elle pu rencontrer ce quelqu'un, sinon durant le trajet de Paris à Saint-Cloud? L'enquête devait donc porter sur les personnes qui avait effectué ce trajet dans le même compartiment qu'elle, et en particulier sur celle avec qui la dame Chassin était en relation de confiance. La dame Chassin, que Victor alla voir, inutilement d'ailleurs, demeurait chez sa mère depuis un an qu'elle avait introduit une instance en divorce contre son mari, quincaillier à Pontoise. La mère et la fille, qui jouissaient d'une excellente réputation, n'admettaient dans leur intimité que 3 vieilles amies, dont aucune n'avait été la veille à Paris. D'un autre côté, l'aspect revêche de la dame Chassin ne permettait pas qu'on la soupçonnât d'inconduite. Le mercredi, les investigations de Victor ne furent pas plus heureuses. Cela devenait inquiétant. Le voleur numéro 4, incité à la prudence par l'exemple de ses 3 prédécesseurs, avait tout le loisir nécessaire pour prendre ses précautions. Le jeudi, il s'installa dans un petit café de Garches, comme une voisine de Saint-Cloud, le café des sports, d'où toute la journée il rayonna aux environs, à Ville-d'Avray, à Marne-la-Coquette, à Sèvres. Il revint dîner au café des sports, en face de la station de Garches, sur la grande route de Saint-Cloud à Vaucresson. À 9 heures, il fut surpris par l'arrivée inopinée de l'inspecteur principal Edouin, qui lui dit « Oh, enfin, je vous cherche depuis ce matin dans la région. Le directeur est furieux après vous. Vous ne donnez plus signe de vie. Que diable, téléphone. Où en êtes-vous? Savez-vous quelque chose ?»« Et vous ?» murmura doucement Victor. « Rien !» Victor commanda 2 consommations, but à gorgée lente un verre de curaçao et formula « La dame chassa un amant. » Edouin sursauta. « Vous êtes fou avec la gueule qu'elle a !» La mère et la fille, qui font tous les dimanches de grandes promenades à pied, ont été rencontrées l'avant-dernier dimanche d'avril dans les bois de Fausse Repose, en compagnie d'un monsieur, et 8 jours plus tard, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on les a vus tous 3 du côté de Vaucresson, en train de goûter au pied d'un arbre. C'est un sieur Lescaut qui occupe au-dessus de Garches, non loin des bois de Saint-Scucufa, un pavillon appelé la Bicoque. J'ai pu le voir par-dessus la haie de son jardin. 55 ans, chétif, barbiche grise. Bon, comme renseignement, c'est maigre. Un de ses voisins, le sieur Vaillant, employé à la gare, peut seulement donner d'autres précisions. Il a été ce soir conduire sa femme à Versailles près d'un parent malade. Je l'attends. Ils attendirent des heures sans parler. Victor n'étant jamais d'humeur communicative. Il s'endormit même. Edouin fumait nerveusement des cigarettes. Enfin, à 00h30, survint l'employé de la gare qui s'écria aussitôt « Oh, le père Lescaut, si je le connais, nous logeons pas à 100 mètres l'un de l'autre, un sauvage qui s'occupe que de son jardin. Quelquefois, tard dans la soirée, il y a une dame qui se glisse dans son pavillon, où il n'en reste guère qu'une heure ou deux. Lui, il sort jamais, sauf le dimanche pour se promener, et un jour par semaine pour aller à Paris. Et quel jour? Oh, généralement lundi. Alors, lundi dernier, oh, il y a été, je me rappelle. C'est moi qui ai reçu son billet de retour. À quelle heure? Bah, toujours le même train, qui arrive à Garches à 6h19 du soir. » Un silence. Les 2 policiers se regardèrent. Edouard demanda « Vous l'avez vu depuis ?»« Oh, pas moi, mais ma femme, qui est porteuse de pain. Même qu'elle prétend que ces 2 derniers soirs de mardi et de mercredi, tandis que j'étais de service, elle prétend qu'on rôde autour de la Bicoque. Le père Lescaut a un vieux roquet qui n'a pas cessé de grogner dans sa niche. Ma femme est sûre que c'était l'ombre d'un homme qui portait une casquette grise. Elle n'a reconnu personne. Si, elle croit bien. Votre femme est à Versailles, n'est-ce pas? Oui, jusqu'à demain. » Sa déclaration terminée, Vaillant se retira. Au bout d'une ou 2 minutes, l'inspecteur principal conclut. Ah, on ira rendre visite au père Lescaut dès le début de la matinée. Sans quoi, nous risquons que le 4e voleur soit volé. Et d'ici là, allons faire le tour du pavillon. Ils marchèrent en silence dans les voies désertes qui grimpent vers le plateau et suivirent une route bordée de petites villas. Une lumière d'étoiles tombait d'un ciel pur. La nuit était tiède et paisible. « Oh, c'est ici !» dit Victor. Il y eut d'abord une haie, puis un mur bas surmonté d'un grillage, à travers lequel, de l'autre côté d'une pelouse, on discernait un pavillon d'un seul étage où s'alignaient 3 fenêtres. « On croirait qu'il y a de la lumière !» chuchota Victor. « Oui, oui, allez au premier, à la fenêtre du milieu. Les rideaux doivent être mal joints. » Mais une autre clarté plus vive s'alluma sur la droite, s'éteignit, se ralluma. « C'est bizarre, dit Victor. Le chien n'aboie pas malgré notre présence. Cependant, je distingue sa niche, là, tout près. On l'a peut-être estourbi. Qui ? Oh, le rôdeur d'hier et d'avant-hier. Ah, alors, c'est que le coup serait pour cette nuit. Faisons donc le tour du jardin. Il y a une ruelle par derrière. Écoutez, Victor prêta l'oreille. Oui, on a crié à l'intérieur. Et ce fut soudain d'autres cris, étouffés, mais nettement perceptibles, puis une détonation qui devait venir de l'étage éclairé et des cris encore. D'un coup d'épaule, Victor renversa la grille d'entrée. Les deux hommes traversèrent la pelouse et franchirent le balcon d'une fenêtre qu'ils n'eurent qu'à pousser. Victor escalada le premier étage, sa lanterne électrique à la main. Sur le palier, deux portes. Il ouvrit celle d'en face et, à la lueur d'une lampe, aperçut un corps étendu qui semblait se convulser. Un homme s'enfuyait par la pièce voisine. Il courut après lui, tandis que Edouin surveillait la seconde porte du palier. De fait, le choc se produisit par là, entre l'homme et l'inspecteur principal. Mais en passant dans la seconde pièce, Victor avisa une femme qui venait d'enjamber une fenêtre ouverte sur la façade postérieure du pavillon et qui descendait sans doute au moyen d'une échelle. Il lança sur elle un jet de sa lumière électrique et reconnut la femme aux cheveux fauves du ciné Balthazar. Il allait sauter à son tour quand un appel de l'inspecteur principal l'arrêta, et tout de suite, une seconde détonation et des plaintes. Il arriva sur le palier pour soutenir Edouin qui s'écroulait. L'homme qui avait tiré était déjà en bas de l'étage. « Courez après !» gémit l'inspecteur principal. « Non, je n'ai rien, c'est à l'épaule. »« Alors, si vous n'avez rien, laissez-moi !» dit Victor furieux et qui essayait vainement de se débarrasser de son collègue. L'inspecteur principal se cramponnait à lui pour ne pas tomber. Victor le traîna jusqu'au canapé de la première chambre, l'y coucha, et renonçant à poursuivre les deux fugitifs, hors d'atteinte maintenant, s'agenouilla devant l'homme étendu sur le parquet. C'était bien le père Lescaut. Il ne bougeait plus. « Il est mort, » dit Victor après un rapide examen. « Pas d'erreur, il est mort. »« Sale affaire, » murmura Edouin. « Et l'enveloppe jaune, fouillez-le. » Victor fouillait déjà. « Ben, il y a une enveloppe jaune, mais froissée et vide. Il était supposé que le père Lescaut avait retiré les bons de la défense, qu'il les gardait à part et qu'il aurait été contraint de les livrer. » Aucune inscription sur l'enveloppe ? Non, mais la marque de fabrique, visible en transparence. Papeterie Gousseau, Strasbourg. Il conclut, tout en soignant son collègue. Ça y est, Strasbourg. C'est là que le premier vol a été commis à la banque. Et nous voici au cinquième voleur. Oh, et cette fois, c'est un type qui n'a pas froid aux yeux, bigre. Si les numéros 1, 2, 3 et 4 ont agi comme des mazettes, oh, le numéro 5 nous donnera du fil à retordre. » Et il pensait à l'admirable créature qu'il avait surprise, mêlée au crime. Mais que faisait-elle là ? Quel rôle jouait-elle dans le drame ?